Chapitre 40. Richard posa la main sur son épée, plus pour se rassurer qu'autre chose, et regarda les chevaux approcher, le bruit de leurs sabots soudain audible. Penché sur l'encolure de sa monture, le cavalier lui imposait un train d'enfer. Le sourcier fit jouer la lame dans le fourreau, histoire de vérifier qu'elle coulissait bien, puis il la lâcha, car l'homme, tout de noir vêtu, lui rappelait quelqu'un.
« Chaise !»
Le garde-frontière s'arrêta à quelques pas d'eux.
« Vous avez tous l'air en forme ?»
dit-il quand la poussière se fut dissipée.
« Chaise ! Te revoir est toujours une joie. Comment nous as-tu trouvé ?»«
Je suis un garde-frontière !»
grogna le colosse, vexé. Visiblement, il jugeait l'explication suffisante.
« Vous avez ce que vous cherchiez ?»«
Non, » soupira Richard. Il remarqua que deux minuscules mains s'accrochaient à la taille du garde-frontière. Un petit visage familier apparut derrière le manteau noir.
« Rachel, c'est toi ?»
Le petit visage se fendit d'un grand sourire.
« Richard, je suis si contente de te revoir. Chase est formidable, il a combattu un garde qui voulait me dévorer. »«
En guise de combat, » marmonna Chase, « je lui ai collé un carreau dans le crâne. »
« Mais s'il l'avait fallu, »
insista Rachel,
« tu l'aurais affronté. Tu es le plus grand héros du monde. »
L'air chagriné, Chase roula de grands yeux.
« N'est-ce pas la plus vilaine petite fille de l'univers ? »
lança-t-il. Il se retourna et regarda la fillette.
« Je n'arrive pas à croire qu'un garde ait voulu te manger. »
Rachel éclata de rire et lui serra plus fort la taille.
« Regarde, Richard !»
Elle tendit un pied, fière de montrer qu'il était chaussé.
« Chase a abattu un daim, mais il ronchonnait parce qu'il était trop gros. Alors il a fait du troc avec un homme. L'autre n'avait rien à échanger, à part ses chaussures et un manteau. C'est pas formidable ? Et Chase a dit que je pouvais les garder. »«
Formidable !»
lui répéta Richard en souriant. Il regarda la poupée et la miche de pain dans son torchon niché entre Chase et l'enfant. Et il s'avisa aussi que Rachel regardait sans cesse Sidine, comme si elle l'avait déjà vue. Callan posa une main sur la jambe de la petite.
« Pourquoi t'es-tu enfui ? Nous avons eu très peur pour toi. »
Rachel frissonna au contact de l'inquisitrice. Elle lâcha Chase de la main droite qu'elle glissa dans sa poche. Sans répondre à la question, elle regarda de nouveau Sidine.
« Pourquoi est-il avec vous ?»«
Callan l'a sauvé, » dit Richard. « La reine l'avait enfermé dans ses cachots. Comme ce n'est pas la place d'un enfant, mon ami l'en a sorti. »
« Et la reine n'était pas furieuse ?»
demanda Rachel en baissant enfin les yeux sur la jeune femme.
« Je ne laisse personne maltraiter les enfants, »
répondit Callan.
« Même les têtes couronnées. »«
Bon, » intervint Chase, « si vous arrêtiez de bavarder, je vous ai amené des chevaux, en selle. J'étais sûr de vous rattraper aujourd'hui. Un sanglier rôti à l'endroit où vous avez campé hier, sur cette rive du fleuve Calisidrine. »
Une main sur le pommeau, Zed sauta en selle, Sidine calée sur l'autre bras.
« Un sanglier ! Quel abruti tu fais ! Laisser sans surveillance un sanglier qui grésille sur des flammes, n'importe qui pourrait s'en emparer !»«
C'est pour ça que j'aimerais qu'on presse le mouvement. J'ai trouvé des traces de loups autour de votre camp, mais en principe ces bestiaux n'approchent pas des feux. »«
Ne touche pas à un poil de ce loup !»
lança Zed.
« C'est un ami de la mère inquisitrice !»
Chase jeta un coup d'œil à Callan, puis à Richard. Perplexe, il fit volter son cheval et partit vers l'ouest au galop. Revoir le garde-frontière avait remonté le moral du jeune homme, comme si tout était de nouveau possible. Callan choisit un cheval, sauta en selle, Sidine en croupe, et bavarda joyeusement avec lui pendant le trajet. Au camp, Zed se précipita sur le sanglier et annonça péremptoirement qu'il était cuit. Remontant sa tunique, il s'assit et attendit, souriant comme un gosse, qu'une bonne âme munie d'un couteau veuille bien découper le dîner. Tout aussi épanoui, Sidine prit place près de Callan et se blottit contre elle. Richard et Chase se chargèrent du découpage. Rachel s'assit près du garde-frontière, sa poupée sur les genoux et la miche contre sa hanche, elle le regarda travailler en gardant un œil méfiant sur Callan. Richard coupa une grosse portion de viande et l'attendit à Zed.
« Alors, Chase, » demanda-t-il, « qu'est-il arrivé ? Avec mon frère, je veux dire. »«
Quand je lui ai transmis ton message, il a décidé de voler à ton secours. Il a mobilisé l'armée et nous avons affecté le gros des forces le long de la frontière, sous le commandement de mes gars. Lorsque la frontière a disparu, Michael a refusé d'attendre sur place. À la tête d'un millier de ses meilleurs soldats, il est entré dans les contrées du milieu. Il bivouaque dans les monts Rang Shada en attendant de venir t'aider.
Richard s'arrêta de découper le sanglier, pétrifié de surprise.
Vraiment ? Michael a réagi comme ça ? Il vient nous aider ? Et avec une armée ?
Comme je te le dis. Puisque tu étais dans le coup, a-t-il déclaré, il y serait aussi.
Richard se sentit honteux d'avoir douté de son frère et fou de joie qu'il ait tout abandonné pour venir lui prêter main forte.
Il n'était pas en colère contre moi ?
J'aurais parié qu'il le serait et qu'il me passerait un savon, mais il désirait seulement savoir où tu étais et quel danger te menaçait. Te connaissant, a-t-il dit, si tu pensais que c'était important, tu devais avoir raison. Il voulait m'accompagner, mais j'ai refusé. Il est avec ses hommes, sans doute sous sa tente, à tourner en rond en attendant le moment d'agir. Franchement, sa réaction m'a autant surpris que toi.
Mon frère et 1000 de ses soldats dans les contrées du milieu, dit Richard, qui n'en croyait pas ses oreilles, tout ça pour venir à mon secours.
Il se tourna vers Callan.
N'est-ce pas merveilleux?
La jeune femme se contenta de lui sourire.
À un moment, dit Chase, l'air sinistre, quand j'ai vu que vos traces conduisaient à la longe d'Agaden, j'ai cru que vous étiez foutu.
Tu t'y es aventuré aussi?
J'ai l'air d'un crétin. On ne devient pas chef des gardes-frontières quand on a un petit poids à la place du cerveau. Non, je me suis juste demandé comment annoncer ta mort à Michael. Puis j'ai vu votre piste ressortir de la longe.
Il plissa le front.
Comment avez-vous réussi à vous en tirer vivant?
Je suppose que les esprits du bien... commença Richard. Un cri de Rachel l'interrompit. Le sourcier et le garde-frontière se retournèrent couteau brandi. Avant que Chase puisse frapper, Richard lui saisit le poignet.
Brophy trottinait vers eux.
Rachel, c'est vraiment toi?
Lança-t-il. La fillette retira de sa bouche le pied de Sarah et écarquilla les yeux.
« Ta voix ressemble à celle de Brophy !»
s'écria-t-elle.
« Normal, puisque c'est moi !»
fit l'animal, sa queue battant joyeusement l'air, et il s'approcha de l'enfant.
« Mais comment es-tu devenu un loup ?»
Brophy s'assit sur ses pattes arrière face à Rachel.
« Un gentil sorcier m'a transformé. Je voulais être un loup et il a exaucé mon souhait. »
« Giller a fait ça ?»
Entendant ce nom, Richard eut le souffle coupé.
« Exactement. Ma nouvelle vie est merveilleuse !»
Rachel enlaça le loup qui lui lécha le visage, la faisant glousser un peu.
« Rachel ?»
dit Richard.
« Tu connais Giller ?»
La fillette se dégagea mais garda un bras autour de l'encolure de Brophy.
« Giller est très gentil. C'est lui qui m'a donné Sarah. »
Elle jeta un regard méfiant à Callan.
« Tu voulais lui faire du mal. La reine est ton amie et tu es très méchante. »
Pour se protéger, elle se serra contre le loup qui lui lécha tendrement une joue.
« Tu te trompes, Rachel, » dit-il. « Callan est mon amie. C'est une des personnes les plus bienveillantes du monde. »
La jeune femme sourit et tendit les bras à l'enfant.
« Approche. »
Rachel consulta Brophy, qui hocha la tête pour confirmer qu'elle n'avait rien à craindre. Encore dubitative, la petite fille avança. Callan lui prit les mains.
« Tu m'as entendu dire de vilaines choses sur Giller, pas vrai ?»
Rachel fit oui de la tête.
« Ma chérie, la reine est très méchante. Jusqu'à aujourd'hui, j'ignorais à quel point. Giller était mon ami. Quand il a rejoint Milena, j'ai cru qu'il était devenu méchant aussi, qu'il passait dans son camp, comprends-tu ? Mais je me trompais. À présent que je le sais, plus question de toucher à un seul de ses cheveux.
Rachel se tourna vers Richard.
C'est la vérité, dit-il. Nous sommes du même côté que Giller.
Du regard, l'enfant interrogea le loup, qui hocha la tête.
Richard et toi n'êtes pas des amis de la reine?
Pour ça, non. Si ça ne tenait qu'à moi, elle ne garderait pas longtemps sa couronne. Quant à Richard, il a sorti son épée et menacé de tuer la princesse. Je doute que ça lui ait gagné la sympathie de Milena.
« Violette ? Richard, tu as fait ça à la princesse ?»«
Eh oui.
Elle a mal parlé à Callan et j'ai juré de lui couper la langue si elle recommençait.
Elle n'a pas ordonné qu'on te décapite ? S'étonna Rachel.
Sa mère et elle n'enverront plus personne sur l'échafaud, dit Callan.
Des larmes aux yeux, Rachel se tourna vers l'inquisitrice.
Je croyais que tu étais méchante et que tu t'en prenais à Giller. Je suis contente d'avoir eu tort.
Elle se jeta au cou de la jeune femme et la serra très fort. Callan lui rendit son étreinte.
« Tu as pointé ton épée sur la princesse ?» dit Chase à Richard. « Tu sais que c'est un outrage majeur ?»«
Si j'avais eu le temps, je l'aurais mis sur mon genou pour lui flanquer une fessée. »
Rachel gloussa à cette idée.
« Ma chérie, tu connais la princesse, on dirait. »«
Je suis son jouet humain. »
répondit la gamine, son rire s'étranglant dans sa gorge.
« Je vivais dans un joli endroit avec d'autres enfants. » « Après la mort de mon frère, la reine est venue me chercher et elle m'a offert ta Violette. »«
Le frère de Rachel ?» dit Richard à Brophy.
« C'était celui dont nous avons parlé ?»
Le loup hocha tristement la tête.
« Donc, ma petite, tu vivais avec la princesse. C'est elle qui t'a massacré les cheveux, je parie. Et elle te battait ?»«
Elle est très méchante, »
confirma l'enfant.
Elle a même commencé à envoyer des gens se faire couper la tête. Comme j'avais peur qu'elle s'en prenne à la mienne, je me suis enfui.
Richard jeta un coup d'œil à la miche de pain, puis s'agenouilla devant la fillette.
« Giller t'a aidé à fuir, n'est-ce pas ?»«
Oui, et il m'a donné Sarah. Il voulait partir avec moi, mais un homme très mauvais est arrivé. Le petit père râle. Il était en colère contre Giller, qui m'a dit de fuir, de me cacher jusqu'à l'hiver, puis de chercher une nouvelle famille. »
Une larme roula sur la joue de Rachel.
« Sarah m'a appris qu'il ne pouvait plus m'accompagner. »
Richard regarda de nouveau la miche de pain. Elle était de la bonne taille, d'après ce qu'il savait.
« Rachel, Zed, Callan, Chase et moi luttons contre Darkenral pour qu'il ne fasse plus de mal à personne. »
L'enfant regarda le garde-frontière.
« C'est la vérité, mon enfant. Dis-lui tout ce que tu sais. »
Richard prit la fillette par les épaules.
« C'est Giller qui t'a donné cette miche de pain ? »
demanda-t-il.
« Oui. »
« Nous allions le voir pour trouver une boîte, une arme très efficace contre Darkenral. Tu veux bien nous la donner, pour nous aider ?»
Avec un sourire courageux malgré ses larmes, Rachel prit le ballot et le tendit au sourcier.
« Elle est dans le pain. Giller l'a cachée avec sa magie. »
Richard serra si fort la fillette qu'elle faillit ne plus pouvoir respirer. Il se releva et la fit tourner dans les airs jusqu'à ce qu'elle éclate de rire.
« Rachel, tu es la plus courageuse, la plus intelligente et la plus jolie petite fille du monde !»
Quand il la reposa sur le sol, la petite courut vers Chase et se glissa sur ses genoux. Le garde-frontière la tira contre lui et lui caressa la tête. Richard prit la miche de pain, la déballa et l'attendit à Callan qui refusa en souriant. Il n'eut pas plus de succès avec Zed.
« Le sourcier l'a trouvée, » dit-il. « À lui de la dévoiler. »
Richard cassa la miche en deux, révélant la troisième boîte d'Ordaine. Il s'essuya les mains sur son pantalon, tira l'artefact de sa cachette et le leva pour l'exposer à la lumière des flammes. Grâce au grimoire des ombres recensées, il savait que la boîte parée d'ornements dissimulait le véritable objet magique. Toujours grâce au grimoire, il aurait pu retirer le camouflage. Il posa sa trouvaille sur les genoux de Callan. En la prenant, elle lui fit le plus beau sourire qu'il lui ait jamais vu. Sans réfléchir, il se pencha et lui donna un rapide baiser. Elle écarquilla les yeux et ne lui rendit pas son baiser, mais le contact de ses lèvres le ramena brutalement à la réalité.
« Excuse-moi, » souffla-t-il.
« Tu es tout pardonné. » lança la jeune femme en souriant. Richard et Zed s'étreignirent en riant comme des gosses. Émus et contents, Chase les regarda sans cesser de cajoler Rachel.
Richard ne parvenait pas à y croire.
Quelques heures plus tôt, découragé, il ignorait que faire et où aller pour combattre Oral, et voilà que la boîte leur tombait entre les mains. Il la posa sur un rocher pour que tout le monde la voie, puis fit avec ses amis le meilleur repas de sa vie. Callan et lui racontèrent à Chase une partie de leurs aventures. À la secrète satisfaction du jeune homme, le garde-frontière fut fort mari d'apprendre qu'il devait la vie à William, l'aubergiste de Havre du Sud. À son tour, Chez leur narra les innombrables difficultés rencontrées pour conduire un millier d'hommes jusqu'au Rangshada. Il insista lourdement sur les absurdités dont accouchaient en toutes circonstances les bureaucrates.
Rachel ne quitta pas les bras du colosse pendant le dîner.
Richard trouva intéressant qu'elle choisisse pour être réconfortée le membre le plus effrayant de leur groupe. Quand le garde-frontière eut fini son récit, elle leva les yeux vers lui et demanda
« Chase, où dois-je me cacher pour attendre l'hiver ?»«
Tu es trop vilaine pour qu'on te laisse en liberté. Un garde s'empresserait de te manger. »
La fillette rit, sachant qu'il plaisantait.
« J'ai des enfants, qui sont tous très laids aussi. Tu ne t'étonneras pas. Je crois que tu devrais vivre chez moi. »«
Tu es sérieux, Chase ?» demanda Richard.
« Il m'est trop souvent arrivé en rentrant que ma femme me présente un nouveau mioche. Il est temps de lui rendre l'appareil. »
Il baissa les yeux sur Rachel qui s'accrochait à lui comme si elle avait peur qu'une bourrasque le lui arrache.
« Mais il y a des règles à la maison. Tu devras t'y plier. »«
Je ferai tout ce que tu voudras, Chase. »
« Eh bien, commençons tout de suite. Voilà la première. Aucun de mes gamins ne m'appelle Chase. Si tu veux faire partie de la famille, papa est de rigueur. Autre chose, tes cheveux sont trop courts. Mes petits ont tous de superbes crinières et j'aime ça, donc tu devras les laisser pousser. Chez nous, tu auras une mère et il faudra l'aimer beaucoup. Enfin, une obligation absolue, jouer avec tes frères et tes sœurs. Tous les jours. Tu crois pouvoir supporter ce régime ? »
Rachel hocha la tête, trop émue pour parler. Ils avaient mangé avec un appétit vorace. Zed lui-même semblait rassasié. Richard se sentait fatigué. En même temps, avoir récupéré la boîte le remplissait d'énergie. Le plus dur était fait. Il avait découvert l'artefact et il suffisait de le garder loin de Ral jusqu'au premier jour de l'hiver.
« Nous cherchons la boîte depuis des semaines, » dit Callan. « Dans un mois, ce sera l'hiver. Il y a quelques heures, nous pensions ne plus avoir assez de temps pour réussir, et à présent, ce délai nous semble une éternité. Que faire en attendant qu'il se soit écoulé ?»«
Nous sommes là pour protéger la boîte, » déclara Chase. « Et un millier d'hommes sont prêts à nous défendre. Et quand nous aurons retraversé la frontière, il y en aura 10 fois plus !»«
Zed, » demanda Callan, « pensez-vous que ce soit très sage ? 1000 hommes sont très faciles à repérer. » « Ne vaudrait-il pas mieux nous cacher plus discrètement, tous les quatre ?»
Le sorcier se pencha en arrière et massa son estomac rebondi.
« Nous serions mieux dissimulés, mais plus vulnérables si on nous trouve. Chase a sans doute raison. Une troupe de cette taille serait une bonne protection, et s'il le faut, nous laisserons les soldats et trouverons une autre cachette. »
« En tout cas, » conclut Richard, « il faudra partir d'ici dès l'aube. » Il faisait à peine jour quand ils se mirent en route. Les chevaux empruntèrent la route. Brophy s'enfonça dans la forêt, ombre fidèle des 4 cavaliers, mais n'hésita pas à jouer de temps en temps les éclaireurs. Hérissé d'armes, les bras de Rachel autour de la taille, Chase conduisait la colonne au trot. Sidine devant elle, Callan, qui avait remis ses vêtements de forestière, chevauchait près de Zed. Richard avait insisté pour que le sorcier se charge de la boîte. Enveloppée dans le torchon qui protégeait auparavant la miche de pain, elle était attachée au pommeau de sa selle. Richard assurait l'arrière-garde, l'œil sans cesse aux aguets dans l'air froid de la matinée. À présent qu'il détenait l'artefact, il se sentait plus vulnérable que jamais, comme si tout le monde risquait de s'en apercevoir au premier coup d'œil. Il entendit rugir les eaux du fleuve avant qu'il passe un tournant et aperçoive le pont. À son grand soulagement, la route était déserte. Chase se lança au galop et ses compagnons talonnèrent leur monture pour suivre le rythme. Richard comprit immédiatement la manœuvre du garde-frontière. Depuis toujours, il lui répétait que les ponts étaient la malédiction des imprudents. Pendant que ses compagnons traversaient à bride abattue la vieille structure de bois, il regarda derrière lui, puis à droite et à gauche. Pas de danger en vue. Au milieu du pont, lancé à pleine vitesse, il percuta violemment quelque chose d'invisible. Sonné, il s'assit sur le séant, humilié de se retrouver par terre. Devant lui, son cheval rouant galopait avec les autres et s'arrêta quand ils s'immobilisèrent et se retournèrent pour voir ce qui se passait.
Sous les yeux étonnés de ses compagnons, le sourcier se releva, l'esprit toujours confus, épousseta ses vêtements et boitilla jusqu'à sa monture. Revenu au centre du pont, il se heurta de nouveau à l'obstacle. Un mur de pierre lui aurait valu les mêmes ennuis, sauf qu'il n'y avait rien. De nouveau sur les fesses, il entendit ses amis revenir vers lui. Tous l'entouraient quand il se remit debout. Zed sauta de cheval, tint les rênes d'une main et aida son protégé de l'autre.
« Que se passe-t-il ? »
« Je n'en sais rien. J'ai eu l'impression de percuter un mur au centre du pont. Mais j'ai dû trébucher. Je crois que ça va aller maintenant. »
Zed regarda autour de lui, puis poussa Richard en avant. Le phénomène se reproduisit. Mais le choc fut moins rude car Richard n'avançait pas vite. Au lieu de se retrouver sur le derrière, il recula simplement de quelques pas. Quand il fit une nouvelle tentative, cela recommença. Sous le regard inquiet de Zed, le sourcier tendit la main et sentit la surface solide et bien réelle du mur qui l'empêchait de passer sans gêner le moins du monde ses compagnons. Le contact avec cette barrière le rendit aussitôt nauséeux, la tête lui tournant à une vitesse folle. De plus en plus intrigué, le vieux sorcier traversa plusieurs fois l'obstacle invisible. « Richard !» dit-il en s'immobilisant à l'endroit exact où se dressait le mur. « Retourne à l'entrée du pont et marche vers moi !» Le jeune homme revint sur ses pas en tâtant la bosse qui se formait sur son front. Dans son dos, Callan sauta de cheval près de Zed. Brophy la rejoignit pour essayer de comprendre ce qui se passait. Quand il repartit en avant, Richard tendit les bras devant lui. Un peu avant d'être à mi-chemin, il se heurta à la barrière et dut reculer pour échapper aux détestables symptômes que lui valait son contact.
« Fichtré foutre !»
lança le vieux sorcier en se frottant le front. Comme il ne pouvait pas les rejoindre, ses compagnons allèrent à la rencontre du sourcier. De nouveau, Zed le poussa en avant. À l'impact, le jeune homme recula un peu.
« Touche l'obstacle de la main droite !»
dit le sorcier en lui prenant la gauche. Richard obéit et résista jusqu'à ce que la nausée le force à retirer sa main. À travers lui, le malaise semblait s'être communiqué au vieil homme. À présent, ils étaient presque à l'entrée du pont. Chaque impact contre le mur l'avait fait reculer de plusieurs pas.
« Fichtre foutre et triple foutre !»«
C'est quoi ?» demanda Richard. Avant de répondre, le sorcier coula un regard sinistre à Callan et à Chase.
« Un sort gardien !»
« Pardon ?»«
Un sortilège dessiné par ce maudit peintre, James. Il l'a tissé autour de toi, et au premier contact, le sort s'est activé. Depuis, il se referme comme un piège. Si on ne te tire pas de là, il se contractera jusqu'à ce que tu sois incapable de bouger, pris dans la nasse, en somme.
Et après ?»«
Quand tu le touches, un poison se diffuse en toi. » Lorsque le sort t'enveloppera comme un cocon, il t'écrasera ou la substance toxique te tuera. »
Affolé, Callan tira le sorcier par la manche de sa tunique.
« Nous devons rebrousser chemin et libérer Richard. »
« C'est ce que nous allons faire, bien sûr, » disait en se dégageant. « Nous trouverons le dessin et nous l'effacerons. »
« Je sais où sont les grottes sacrées, »
dit Callan en se hissant sur sa monture un pied dans l'étrier.
« Alors nous n'avons pas de temps à perdre, en route !»«
Non !»
lâcha le sourcier. Tous se retournèrent les yeux ronds.
« Richard, il le faut !»
lança Callan.
« Elle a raison, mon garçon, c'est la seule solution !»«
Non, c'est ce que nos ennemis attendent !»« Zed, tu as dit que James ne pouvait rien contre toi ou contre Callan, alors il s'en est pris à moi, pour nous forcer à revenir en arrière. La boîte est trop importante pour courir ce risque. » « Callan, dis-moi où sont ces grottes. Toi, Zed, explique-moi comment effacer ce sort. »
Callan prit les rênes de son cheval et attrapa au vol celle du rouan de Richard.
« Zed et Chase se chargeront de la boîte. Moi, je viens avec toi. »«
Pas question, j'irai seul. L'épée me protégera. Notre première responsabilité, c'est la boîte d'Ordaine. Elle passe avant tout. Indiquez-moi comment trouver les grottes, puis annuler le sort. Quand j'aurai fini, je vous rattraperai. »
« Richard, je crois, plus un mot.
Le but est d'arrêter Darkenral. Nos vies ne comptent pas. Callan, tu n'iras pas, c'est un ordre. »«
Dis-lui où sont les grottes, mon enfant, »
souffla Zed.
L'inquisitrice lança les rênes au sorcier, ramassa un bâton et dessina une carte dans la poussière.
« Voilà le fleuve Calisidrine, »
dit-elle en suivant une ligne de la pointe de son bâton.
« Le pont est là. Ça, c'est la route et, de ce côté, Tamarang et le château. »
Elle dessina une nouvelle route.
« Dans ces hauteurs, au nord-est de la ville, un cours d'eau coule entre deux collines jumelles. Après environ un quart de lieue, un petit pont le traverse. À cet endroit, les collines ont des parois rocheuses du côté de l'eau. Les grottes sont dans la falaise située côté nord-est de la rivière. C'est là que le peintre jette ses sorts. »
Zed prit son bâton à Calan, le cassa en deux et roula une moitié longue d'environ 4 pouces entre ses paumes.
« Voilà, ça effacera le sort. Sans le connaître, je ne peux pas te dire quelle partie tu dois éliminer, mais tu le découvriras sans doute tout seul. C'est un dessin, donc tu réussiras à lui trouver un sens. Un sort de ce type doit en avoir un, sinon il ne fonctionne pas. »
Au toucher, le demi-bâton que Zed avait traité n'évoquait plus du bois. Contre la peau, son contact était plus doux et un peu collant. Richard le rangea dans sa poche. Le sorcier fit subir le même sort à l'autre bout de bois. Quand il le donna à Richard, il était noir comme du charbon et beaucoup plus dur.
« Avec celui-là, tu pourras modifier le sort s'il le faut. »
« Le modifier comment ?»«
Là encore, je ne peux rien dire sans l'avoir vu. » « Tu devras te fier à ton jugement. Maintenant, dépêche-toi, mais je pense toujours que nous devrions... »«
Non, Zed. Nous savons tous de quoi Darkenral est capable. Tout dépend de la boîte. Sois très prudent et veille sur Calan. » Il se tourna vers Chase.
« Conduis-les à Michael. Il vous aidera à protéger l'artefact. Ne traînez pas en chemin pour m'attendre. Je vous rattraperai sans problème le moment venu. » Et si je ne me montre pas, j'interdis que vous veniez me chercher. Votre mission, c'est de partir avec la boîte, compris ?
Tu as ma parole d'honneur, dit Chase.
Il expliqua au sourcier comment rejoindre l'armée de Terre d'Ouest dans les rangs de Shada. Richard s'approcha de Calan. Veille bien sur Sidine. Et ne t'inquiète pas, je serai vite de retour. Maintenant, filez. Zed monta en selle, Calan lui confia Sidine.
Partez devant, dit-elle au garde-frontière. « Je vous rejoindrai dans quelques minutes. »
Le sorcier voulut protester, mais elle en empêcha d'un geste. Elle regarda les deux chevaux traverser le pont et s'éloigner, puis elle se tourna vers Richard.
« Je t'en prie, laisse-moi venir. »«
Non. » Vaincue, elle n'insista pas.
« Dans les contrées du milieu, » dit-elle, des larmes aux yeux, « il y a des dangers dont tu ignores tout. Sois prudent. »
Je serai revenu avant d'avoir eu le temps de te manquer.
J'ai peur pour toi.
Je sais, mais tout ira bien. Elle le regarda avec ses yeux verts où il aurait tant voulu se noyer.
Je ne devrais pas faire ça,
souffla-t-elle. Elle se jeta à son cou et l'embrassa. Un baiser violent, passionné et désespéré. Un instant, alors qu'il la serrait contre lui, le contact des lèvres de la jeune femme, la douceur de ses doigts sur sa nuque et le petit gémissement qui lui échappa firent oublier jusqu'à son nom au sourcier. Quand elle s'écarta, l'esprit embrumé, il la regarda glisser le pied dans un étrier et monter en selle. Elle tira sur les rênes, amenant le cheval près de lui.
« Jure-moi de ne rien faire de stupide, Richard Cypher. »
« Promis. » dit le sourcier, sans préciser que la mettre en danger était ce qu'il considérait comme le comble de l'idiotie. « Ne te tourmente pas, je ne serai pas absent longtemps. Fais en sorte que Ral n'ait pas la boîte, c'est l'essentiel. À présent, file. » Les rênes de son rouan dans la main, il regarda la jeune femme traverser le pont au galop. « Je t'aime, Calan Amnel, » murmura-t-il. Richard tapota gentiment la tache grise sur l'encolure du rouan et le guida hors de la piste après qu'ils eurent traversé le petit pont de bois. Ils suivirent la rive. En confiance, l'animal n'hésita pas à avancer dans l'eau quand des broussailles leur barraient le passage. Sous le soleil, des collines quasiment chauves flanquaient la rivière. Quand les berges devinrent trop escarpées, Richard fit remonter un peu le rouan pour que sa progression soit plus facile, et il n'avait pas cessé de sonder les alentours sans rien remarquer de suspect. Les lieux semblaient déserts. Des falaises de craie blanche bordaient les berges de la rivière, la face rocheuse des collines identiques qui longeaient. Richard tira sur les rênes et sauta de selle avant même que sa monture se soit arrêtée. Puis il l'attacha à un buisson dont les baies rouges étaient déjà sèches et ratatinées. Quand il descendit vers l'eau, ses bottes glissèrent dans la boue. Un sentier étroit serpentait le long de la falaise. En le suivant, il arriva devant l'entrée d'une caverne. L'ouverture, très large, évoquait une gueule béante. Une main sur la garde de son épée, Richard sonda l'obscurité, cherchant à repérer le peintre ou un autre importun. Personne en vue. Dès l'entrée de la grotte, des dessins couvraient ses parois, et il continuait jusqu'à se perdre dans ses entrailles obscures. Comment trouver le bon? Il y en avait des centaines, peut-être des milliers. Certains ne dépassaient pas la taille de sa main, d'autres étaient aussi grands et larges que lui. Ils représentaient des scènes très diverses. Sur la plupart ne figurait qu'une personne, mais il y avait quelques exceptions. À l'évidence, plusieurs artistes avaient conjugué leurs efforts. Une partie des images était d'une précision pointilleuse, et les jeux d'ombre et de lumière témoignaient d'une grande maîtrise. On y voyait des personnages aux membres cassés ou buvant dans des coupes ornées de crânes et d'os, ou debout devant des champs aux récoltes ravagées. Ailleurs, œuvre d'un peintre beaucoup moins doué, il s'agissait plutôt d'esquisses, souvent maladroites, mais les scènes restaient tout aussi lugubres. À coup sûr, le talent du dessinateur comptait peu, seul le message avait de l'importance. Richard découvrit des dessins aux auteurs différents, mais aux nombreux points communs. Autour de chaque personnage était dessinée une carte et un cercle dans lequel s'inscrivaient un crâne et deux fémurs croisés. Des sorts gardiens. Mais comment trouver celui qu'il concernait? Il y en avait partout. Sans avoir une idée de ce qu'il cherchait, c'était une mission impossible. De plus en plus angoissé, il avança dans la pénombre, scrutant en vain les parois. Au passage, il laissait courir ses mains sur les images pour n'en rater aucune. Son regard volait de droite à gauche, affolé par la multitude de sorts et vainement en quête d'un détail familier. De quoi devenir fou quand on ignorait que chercher et où le trouver? Richard continua d'avancer. Les dessins finissaient bien quelque part, et en toute logique, les derniers devaient être au fond de la grotte. Quand il fit noir, il battit en retraite pour récupérer une des torches en roseau stockées à l'entrée. Après quelques pas, il percuta le mur invisible et comprit, glacé de terreur, qu'il était prisonnier de la grotte. Il ne lui restait presque plus de temps et les torches étaient hors de sa portée. Il reprit ses recherches. Mais il ne distinguait presque plus les dessins et le fond de la caverne semblait encore très loin. Une idée qui le fit frissonner de déplaisir lui traversa l'esprit. « Quand il fera assez noir pour que ce soit indispensable. » Les paroles d'Adi. La pierre de nuit. Richard sortit aussitôt la bourse de cuir de son sac. Il la posa sur sa paume et tenta de décider si elle l'aiderait ou lui attirerait davantage d'ennuis. Du genre qu'il ne pourrait pas gérer. Mais chaque fois qu'il avait utilisé la pierre, les ombres avaient mis un moment pour arriver. S'il la sortait un bref instant pour jeter un coup d'œil autour de lui et la ranger aussitôt dans la bourse, il aurait gagné le temps qu'il lui fallait avant que les ombres le trouvent. Était-ce vraiment une bonne idée? Quand il fera assez noir pour que ce soit indispensable. Une phrase à double sens. Il fit tomber la pierre dans sa main. Aussitôt, la grotte fut illuminée comme en plein jour. Richard ne tenta pas de détailler les dessins. Au contraire, il avança en quête de l'endroit où il n'y en avait plus. Du coin de l'œil, il vit la première ombre se matérialiser, assez loin de lui pour le moment. Il continua. Quand il aperçut la dernière image, des ombres le serraient de près. Alors il remit la pierre dans la bourse. Retenant son souffle, de nouveau aveugle, il attendit de sentir le contact glacial de la mort. Rien ne vint. Un peu de lumière filtrait de l'entrée, mais elle n'était pas suffisante pour voir les dessins. Tôt ou tard, il devrait ressortir la pierre. Avant, il glissa une main dans sa poche et en sortit le demi-bâton un peu collant que lui avait donné Zed. Puis, il ressortit la pierre. Un instant ébloui, il regarda autour de lui dès que ce fut fini. Alors, il vit ce qu'il cherchait. L'homme représenté sur le mur était de sa taille, la carte et le cercle dépassant au-dessus de sa tête. aussi rudimentaire que fût le trait, se reconnaître ne lui posa pas de problème. Le mot « vérité » figurait sur la garde de l'épée que brandissait le personnage. La silhouette était entourée d'une carte semblable à celle qu'avait dessinée Callan. D'un côté, une ligne droite partant du bord extérieur du cercle longeait le fleuve Calisidrine et passait exactement au milieu du pont, l'endroit où il avait activé le sort. Les ombres murmuraient son nom. Richard se retourna et vit des mains se tendre vers lui. Plaqué à la paroi, il remit la pierre dans la bourse. Désespéré, il pensa que le cercle autour du personnage montait beaucoup trop haut sur le mur pour qu'il puisse l'effacer entièrement. Et s'il en éliminait seulement une partie, il ne saurait pas où se situerait la brèche, comment faire pour qu'elle soit dans la grotte où il était coincé. Il s'écarta un peu de la paroi pour avoir une meilleure vue d'ensemble quand il ressortirait la pierre de nuit. Mais il percuta le mur invisible. Affolé, il comprit qu'il lui restait très peu de temps, le piège se refermait. Il sortit la pierre et entreprit d'effacer l'épée avec l'espoir de se libérer du sort en privant le dessin de son identité. Mais les lignes résistaient, et quand il recula d'un pas, ce fut pour percuter de nouveau le cocon invisible. Les ombres approchaient toujours et susurraient son nom. Il rangea la pierre, haletant dans l'obscurité comme un animal pris au piège. Inutile d'espérer contenir les ombres d'une main pendant qu'il effacerait de l'autre. Il avait déjà combattu ses adversaires et dû mobiliser toutes ses ressources. Que faire ? L'épée n'était plus sur le dessin et ça n'avait rien changé. Le sort le reconnaissait toujours, et il ne lui restait pas assez de temps pour s'attaquer à toutes les lignes à sa portée. C'était la fin. Soudain, il capta du coin de l'œil une lumière vacillante et se retourna. Une torche à la main, son sourire mielleux sur les lèvres, James venait d'entrer dans la grotte.
« Je me doutais que tu serais là, » dit-il. « Alors je suis venu jeter un coup d'œil. Puis-je t'aider ?»
À la façon dont le peintre éclata de rire, Richard comprit qu'il n'avait aucune intention de lui porter secours. Et James savait que l'obstacle invisible le mettait à l'abri de l'épée de vérité. James rit de plus belle, ravi de savoir son adversaire impuissant. Richard tourna la tête et constata que la lumière de la torche lui permettait de voir le dessin. Mais le mur invisible le poussa contre la paroi. Nauséeux, il s'aperçut qu'il n'en était plus qu'à un pas. Bientôt, il serait coincé, puis écrasé ou empoisonné. Il se tourna vers le dessin. Effaçant d'une main, il fourra l'autre dans sa poche et sortit le deuxième bâton, celui qui pouvait modifier l'image.
James tendit le cou pour voir ce qu'il faisait. « Que fiches-tu donc ? »
demanda-t-il, son rire s'étranglant dans sa gorge. Richard ne répondit pas et continua à effacer la main droite du dessin.
« Arrête !»
cria James. Richard l'ignora. Jetant sa torche, le peintre sortit son propre crayon et commença à dessiner à toute vitesse, sa main projetant autour de lui des gouttelettes d'une sueur grasse. Il esquissait une silhouette, un nouveau sort. S'il finissait avant lui, comprit Richard, tout serait perdu.
« Arrête, espèce de fou !»
brailla James sans cesser de travailler. Le cocon invisible fit pression contre le dos du sourcier et le poussa vers la paroi. Bientôt, il ne pourrait plus bouger les bras. James avait déjà dessiné l'épée de son personnage et il s'apprêtait à écrire le mot « vérité ». Richard prit son deuxième bâton et d'une simple ligne relia les deux côtés du poignet de son propre personnage pour représenter un moignon comme celui de James. Dès qu'il eut fini, la pression se relâcha dans son dos et la nausée cessa.
James hurla. Gisant sur le sol, plié en deux, il vomissait tripes et boyaux.
Impassible, le sourcier ramassa la torche. Le peintre leva sur lui des yeux implorants.
« Je ne voulais pas te tuer, seulement te piéger. »
« Qui t'a demandé de m'ensorceler ?»«
La mort de Sith. »
souffla James avec un rictus pervers. « Tu vas crever !»
Une mort de Sith. C'est quoi ?
Un craquement d'os suivi du sifflement d'une baudruche qui se vide lui apprit que James venait de mourir. Et ce n'était pas lui qui le pleurerait. Bien qu'il ignorât ce qu'était une mort de Sith, Richard jugea inutile de s'attarder sur les lieux pour le découvrir. D'autant plus qu'il se sentait seul et vulnérable. Zed et Callan l'avaient mis en garde contre les multiples manifestations de la magie dans les contrées du milieu. Il détestait la sorcellerie et ce foutu pays. Son seul désir était de retourner près de la jeune femme. Il courut vers la sortie de la grotte, lâchant sa torche au passage. Dehors, ébloui par la lumière, il s'arrêta et se protégea les yeux. Quand il retira son bras, les paupières plissées, il vit les soldats qui l'attendaient. En uniforme de cuir noir, un fourreau sur l'épaule, ils portaient à la ceinture des haches de guerre et des coutelas. Devant eux, face à Richard, se tenait une femme aux longs cheveux auburn nattés. Son uniforme de cuir rouge sang la moulait comme une seconde peau. Sur son ventre étaient dessinés un croissant et une étoile jaune. Les hommes portaient sur la poitrine les mêmes symboles, mais les leurs étaient rouges. La femme le regardait, l'ombre d'un sourire ironique sur les lèvres. Richard écarta les pieds, assurant ses appuis, et saisit la garde de son épée. Sans connaître les intentions de ces gens, que pouvait-il faire de plus ? La femme leva les yeux, fixant un point au-dessus de lui. Aussitôt le sourcier entendit deux hommes sauter de la falaise dans son dos. La colère de l'épée passa dans sa main et se communiqua à tout son corps. Il serra les dents pour empêcher sa rage d'exploser. La femme claqua des doigts à l'intention des hommes placés dans son dos, puis le désigna.
« Capturez-le !»
C'était tout ce que le sourcier voulait savoir. Le pacte était scellé. Le messager de la mort se réveilla. Il dégaina en se retournant et lâcha la bride à une fureur qui le submergea. Dans le regard des deux hommes, alors qu'ils dégainaient leurs lames, il vit briller la soif de tuer. Richard garda l'épée de vérité à hauteur de sa taille, prêt à mettre tout son poids et toute sa force dans le coup. Méfiant, les deux soldats baissèrent leurs armes. Le sourcier hurla sa rage et son désir de sang, puis il s'abandonna à l'ivresse du meurtre, conscient que toute retenue lui coûterait la vie. La pointe de sa lame fendit l'air en sifflant. Le messager de la mort. L'acier scintilla dans l'air limpide de la matinée. Deux grognements retentirent, suivis à l'impact par un double son écœurant comme celui que produisent des melons pourris en s'écrasant sur le sol. Dans un geyser de sang et d'entrailles coupé en deux au niveau de la taille, les soldats s'écroulèrent, le haut de leur corps basculant en arrière pendant que le bas s'affaissait mollement. La lame du sourcier continua sa course au milieu des filaments de sang et de fluides vitaux. Faisant volte-face, il concentra sa colère, sa haine et sa soif de mort sur une autre cible. La femme commandait ses soldats. Il devait la vider de sa vie. La saigner à blanc, lui déchirer les chairs. La magie se déversait en lui comme un torrent. De sa gorge sortait toujours un cri de démon. La femme en rouge le regardait un point sur la hanche. Richard croisa son regard et modifia légèrement l'angle de frappe de son épée pour la toucher juste au-dessus du nez. Le sourire qu'il vit naître sur ses lèvres attisa le feu de sa colère. Alors qu'il se défiait du regard, l'épée de vérité vola vers la tête de l'insolente. Plus rien n'arrêterait le sourcier, le messager de la mort. La douleur infligée par la magie de l'épée le frappa comme une averse d'eau froide sur un corps nu. La lame n'atteignit jamais sa cible. La lâchant, Richard tomba à genoux. La souffrance lui foya les entrailles et le força à se plier en deux. Le poing toujours sur la hanche, sans cesser de sourire, la femme approcha et le regarda vomir du sang, la respiration coupée par ce flot venu du plus profond de son être. Le corps en feu, les poumons vidés de leur air, la douleur consumait Richard de l'intérieur.
Au désespoir, il tenta de reprendre le contrôle de la magie pour chasser la souffrance, comme il avait appris à le faire après avoir tué son premier homme, mais rien ne se passa. Fou de panique, il comprit que le pouvoir de l'épée ne lui obéissait plus. La femme le maîtrisait.
Richard bascula en avant, face contre terre.
En vain, il tenta de crier ou de respirer. Un instant, il pensa à Callan, puis la force qui le déchirait de l'intérieur lui enleva aussi cela.
Aucun des autres soldats n'avait bougé. La femme lui écrasa une botte sur la nuque et s'accroupit un coude posé sur son genou. De l'autre main, elle saisit les cheveux du sorcier et lui releva la tête. Son uniforme de cuir craqua quand elle se pencha un peu plus.
« Eh bien, eh bien !»
siffla-t-elle.
« Moi qui croyais devoir te torturer pendant des jours, avant que tu sois assez furieux pour utiliser ta magie contre moi. Mais ne t'inquiète pas, j'aurai d'autres raisons de te mettre au supplice. »
Dans le brouillard de sa souffrance, Richard comprit qu'il avait commis une erreur fatale. Sans savoir comment, il avait transmis à la femme le contrôle de l'épée de vérité et de sa magie. Bref, il se retrouvait dans une situation désespérée. Mais Callan était en sécurité, et cela seul importait.
« Tu veux que la douleur s'arrête, gentil petit chien ?»
Cette question le fit bouillir de rage. La haine qu'il éprouvait pour la femme et son envie de l'éventrer décuplèrent sa douleur.
« Non !»
parvint-il quand même à répondre.
« Personnellement, ça ne me dérange pas. Quand tu en auras assez, il te suffira d'arrêter de penser des méchantes choses à mon sujet. Désormais, je contrôle la magie de ton arme. » Si tu prémédites seulement de lever un doigt sur ma personne, la souffrance te jettera au sol, hurlant comme un possédé. »
Elle sourit.
« C'est la seule douleur que tu pourras influencer. Pense quelque chose d'agréable sur moi et elle cessera. Mais ne rêve pas, je la contrôle aussi, et je te l'infligerai chaque fois que ça me chantera. Comme tu le verras bientôt, « j'ai d'autres trésors de terreur à ta disposition. »
Elle plissa le front.
« Dis-moi, petit chien, as-tu osé tourner ta magie contre moi parce que tu es idiot ou parce que tu te prends pour un héros ?»
La douleur diminuant un peu, Richard aspira une goulée d'air. Sa tortionnaire, comprit-il, avait relâché la pression pour qu'il puisse répondre.
« Qui êtes-vous ? »
Elle le reprit par les cheveux et lui tordit le cou pour le regarder dans les yeux.
La botte appuya plus fort sur sa nuque et du feu liquide se déversa dans ses épaules. « Tu ignores qui je suis ?»
dit la femme intriguée.
« Dans les contrées du milieu, tout le monde me connaît. Je viens de Terre d'Ouest. » « Terre d'Ouest, quelle délicieuse surprise! On va beaucoup s'amuser. Je me nomme Dena, maîtresse Dena, pour toi, petit chien. Je suis une mort de Sith. Je ne vous dirai jamais où est Callan. Vous feriez mieux de me tuer. » « Callan ? Qui est-ce ? La mère inquisitrice. La mère inquisitrice !»
répéta Dena comme si elle avait du fiel dans la bouche.
« Que ferais-je d'une inquisitrice ? C'est toi, Richard Cypher, que Maître Rall m'a chargé de capturer. » « Imagine-toi qu'un de tes amis t'a trahi. »
Elle lui tira plus fort sur la tête. Sa botte lui écrasa davantage la nuque.
« Et je t'ai eu.
Je m'attendais à des difficultés, mais tu m'as mâché le travail et un peu gâché le plaisir. Je suis responsable de ton dressage, petit chien. Mais puisque tu viens de Terre d'Ouest, tu ignores sûrement de quoi je parle. Alors écoute-moi bien. Une mort de cite porte toujours du rouge quand elle dresse quelqu'un. Pour que les taches de sang ne se voient pas trop. À mon avis, et la perspective me réjouit, j'aurai sur moi beaucoup de sang avant d'en avoir fini avec toi.
Elle lui lâcha la tête, appuya encore plus fort sur sa nuque et lui brandit sa main devant les yeux. Il vit que le dos de son gant était revêtu de fer, y compris sur les doigts. À son poignet, tenu par une élégante chaîne en or, pendait une lanière de cuir rouge d'un pied de long. L'instrument de torture oscillait devant son visage, atroce promesse des exactions à venir.
« C'est un agiel. Entre autres choses, il me servira à te dresser. »
Elle sourit, un sourcil levé.
« Tu es curieux? Une démonstration te ferait plaisir ?»
Dena appuya l'agiel contre le flanc de Richard. Fou de douleur, il hurla, bien qu'il se fût juré de ne pas lui donner la satisfaction de voir à quel point il souffrait. Les muscles tétanisés, il ne sentait plus que l'atroce brûlure de l'agiel, et une seule pensée emplissait son esprit. Qu'on éloigne cet objet maudit de lui. Dena poussa un peu plus fort et lui arracha un autre cri. Un bruit sourd lui apprit qu'une de ses côtes avait cédé. Quand elle retira la gielle, du sang ruissela sur le flanc du jeune homme. Étendu sur le sol, trempé de sueur, du sang et de la poussière dans la bouche, il haletait les yeux noyés de larmes. Dena lui avait-elle donc arraché ou déchiqueté tous les muscles?
« Maintenant, petit chien, répète après moi. Merci, maîtresse Dena, de m'avoir donné une leçon. »
Elle attendit un peu.
« Dis-le !»
Richard se concentra sur son désir de la tuer et imagina que la lame de l'épée de vérité lui fendait le crâne.
« Crève, salope !»
Les yeux mi-clos, Dena frissonna d'extase et se passa la langue sur les lèvres.
« Quelle image délicieusement méchante, petit chien! Bien sûr, tu le regretteras. Mais te dresser promet d'être très amusant. Dommage que tu ne saches rien des morts de cite. Mieux informé, tu serais mort de peur, et j'adorerais ça. Cela dit, je me régalerais encore plus en te surprenant sans cesse, petit chien. »
Jusqu'à ce qu'il perde connaissance, Richard garda à l'esprit l'image de la lame plantée dans le crâne de Dena.